Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Quand on parle d'Europe ces temps-ci, il n'est question que de crise. Crise migratoire, crise bancaire, crise de croissance, fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, dissension entre le Nord et le Sud, sans oublier bien sûr la rupture britannique. En somme, l'Union européenne est en pleine crise existentielle, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission de Bruxelles. Jacques Delors occupait cette même fonction de 1985 à 1995. Avec le recul, l'âge d'or du projet européen, en tout cas le moment où un élan commun poussait vers l'avant. L'union du continent a-t-elle encore un avenir politique alors que les égoïsmes nationaux, les différends, les crispations et les calendriers électoraux en France, en Allemagne, aux Pays-Bas font souffler des vents contraires. 20 ans après sa création, l'Institut Jacques Delors organisait hier à Paris, sur la question, un débat entre le président de la Commission et le Premier ministre français, Manuel Valls. Au-delà des politesses de circonstance, quel est leur diagnostic? L'Union à 27 peut-elle nourrir encore un projet commun? Quels en sont les principes et les contours? Comment les opinions publiques dans quelques pays clés évoluent-elles en la matière? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Pascal Lamy, bonjour. Vous êtes le président d'honneur de cet institut de recherche. Avec nous aussi, je les en remercie, Thomas Hanke, qui est le correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt, Bartosz Wieliński, journaliste à Gazeta Wyborcza, le grand quotidien polonais, et Marco Zatterin, qui est le spécialiste de l'Europe à la Stampa, le quotidien italien, le quotidien de Turin.
Bonjour.
Pascal Lamy, commençons avec cette question qui domine, semble-t-il, les préoccupations des dirigeants européens, et jusqu'à un certain point de tous ceux qui voudraient les remplacer. On le voit dans le tintamarre qui s'installe en France à l'approche de l'élection présidentielle, la question de l'identité. Et cette fois, ce qui est posé, c'est l'identité de l'Europe. Est-ce que c'est une question légitime et utile à ce stade?
Je crois que oui. Je crois que oui, parce que dans les moments de crise, au pluriel, qui sont celles au pluriel que vit actuellement l'Union européenne, il faut revenir à l'essentiel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a entendu aussi bien de la part de Jean-Claude Juncker que de Manuel Valls. Et l'essentiel, c'est le sens de l'Union européenne. C'est les raisons pour lesquelles nous croyons, en tout cas ceux d'entre nous qui pensent qu'il faut continuer à avancer dans sa direction de l'intégration, les raisons pour lesquelles nous croyons qu'on fait mieux ensemble que tout seul. Et ces raisons, ce sont des raisons de valeur, ce sont des raisons de conviction. C'est au fond ce qui fait la spécificité européenne dans un monde qui en comporte d'autres. C'est peut-être justement ça, le nouveau narratif, le nouveau projet qui doit faire suite à celui qui a été celui des pères fondateurs et qui consistait à ne plus se faire la guerre, ce qui était un beau projet, mais finalement un projet un peu négatif. C'était pas un rêve, c'était le refus d'un cauchemar. Je crois qu'il faut maintenant passer à quelque chose, notamment pour les jeunes générations, qui est dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde vaste, divers, turbulent, compliqué. Revenir au fait que l'Europe, ce sont des valeurs, c'est l'état de droit, c'est davantage de tolérance à la diversité qu'ailleurs, c'est davantage d'intolérance aux inégalités qu'ailleurs, c'est une certaine sensibilité environnementale, c'est l'accès à la culture pour une grande partie des populations, c'est ce mode de vie européen que le monde, pendant très longtemps, nous a envié. Et qu'il faut que le monde continue à nous envier. C'est cette idée que l'Europe rétrécit dans le monde d'aujourd'hui parce que les autres avancent plus vite et deviennent plus grands et plus gros. Donc notre part de marché économique est en train de rétrécir. Je crois qu'il faut que notre part de marché idéologique continue à demeurer là où elle était. Je ne suis pas un poète, mais au fond, c'est la conception européenne du bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là qu'il faut revenir.
Ce qui était frappant dans les propos tenus hier, donc à l'occasion du 20e anniversaire de votre institut, c'est qu'autant le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, que Manuel Valls, que l'on entend rarement sur les questions européennes, ils ont l'un et l'autre insisté sur cette question d'identité. Et Jean-Claude Juncker a mis même carrément les pieds dans le plat en exprimant, en fait, dans une formule assez frappante, que c'en est fini des États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe qui ont pourtant été le rêve, en tout cas, de ce courant, disons, fédéraliste au cours des 50 ou 60 dernières années. Jean-Claude Juncker.
Je crois que nous devons cesser de parler des États-Unis d'Europe. Je l'ai fait tant que j'étais très jeune, à l'âge de 17-18 ans, et à un certain moment, je me suis dit, on ne peut plus induire en erreur les citoyens européens, parce que nous n'aurons jamais les États-Unis d'Europe, parce que les peuples d'Europe ne le veulent pas. Les peuples d'Europe ont besoin de proximité immédiate. Ils aiment leur terroir, leur paysage, leur tradition. Ils aiment une Europe faite de diversité et donc plus riche que d'autres ensembles. Et donner l'impression que l'Union européenne serait en voie d'étatisation ne mène nulle part parce que ceux qui habitent l'Europe respectent aussi, non pas l'identité nationale, c'est devenu un terme connoté, mais la réalité nationale. L'Europe ne peut pas se construire contre la volonté des nations.
Thomas Hanke, vous êtes le correspondant du grand quotidien économique allemand Handelsblatt. Est-ce que cette formulation vous semble convaincante? Et est-ce qu'elle est à même de convaincre ou de transporter les jeunes générations d'Allemands pour continuer à construire une Europe?
Moi, j'étais frappé par cet empressement de Juncker de dire « c'est fini les États-Unis de l'Europe ». J'ai pas très bien compris pourquoi il se sentait presque pressé de dire ça à la tribune. Mais bon, je trouve que les jeunes ne se posent pas les questions dans ces termes-là. États-Unis de l'Europe, État souverain, État national, pas franchement. Ils veulent que quelqu'un résout leurs problèmes. Et là, effectivement, l'Europe a perdu en crédibilité parce qu'on a trop longtemps, pendant des années, on a nié le problème du chômage des jeunes. C'est la responsabilité de la commission Barroso qui n'a pas du tout vu le problème parce que, je sais pas, peut-être parce qu'il est tellement néolibéral dans sa tête que le chômage des jeunes, c'est pas un problème pour lui. Mais la responsabilité retombe aussi aux autres, aux gouvernements qui n'ont rien fait non plus. Malheureusement, il y a maintenant beaucoup de problèmes, beaucoup de propositions sur la table. Ça n'avance pas vraiment. On répète chaque fois que le Conseil européen se réunit, on dit que c'est une priorité. Dans la réalité, on n'avance pas beaucoup. Il y aurait des choses qu'on pourrait faire. On pourrait faciliter beaucoup l'échange, comme on l'a fait pour Erasmus. On pourrait faire pour les étudiants, on pourrait le faire aussi pour les apprentis. Je me demande pourquoi ça prend autant de temps. Par ailleurs, je voulais quand même revenir au fait que c'est le Premier ministre qui a prononcé ce discours. Je crois que pour la discussion en France, c'est quand même un événement majeur. C'est la première fois qu'il se prononce sur l'Europe. C'est la première fois qu'il prend la parole sur l'Europe en France en presque 3 ans. Et c'était un discours d'un président, c'était pas un discours d'un premier ministre qui était un peu dans la mécanique, non, c'était vraiment un discours d'un président qui a énoncé toutes les grandes questions, qui sommes-nous, où voulons-nous, où est-ce que nous voulons aller, quelle est la part des États souverains, donc ça m'a frappé.
Alors, précisément, écoutons donc un extrait des propos de Manuel Valls hier matin. Donc, Manuel Valls qui revient lui aussi sur cette question de l'identité européenne.
Cette Europe, avec son identité, ses frontières, doit être souveraine dans le cadre d'une fédération d'États-nations. L'Europe ne doit pas devenir un État fédéral. Et en même temps, elle est plus qu'une organisation internationale, puisque les États ont librement décidé d'exercer ensemble des pans entiers de leurs prérogatives, à commencer par la monnaie qu'il faut défendre, l'euro. Moi, je crois aux nations. Elles ne sont pas une mélancolie ou un vestige du passé. Elles sont un repère dans ce monde qui change si vite. L'histoire est là. Elle est de retour avec sa part tragique. Et sans nation forte, le projet européen est fragilisé. Mais sans union puissante, nos nations sont plus faibles. L'Europe, c'est ce supplément de souveraineté qui permet à nos nations de peser davantage. Et c'est là d'ailleurs qu'intervient la grande supercherie des populismes qui sévissent partout. Ils affirment qu'il faut se retirer du monde, se barricader. Ce sont des sornettes, nous le savons. Faire le choix de l'isolement, des nationalismes, c'est faire le choix de la ruine et du déclin.
Bartosz Wieliński, vous venez de Varsovie. On sait quelles sont les tensions que le gouvernement polonais inflige à une opinion publique qui, en tout cas dans les grandes villes, tente de résister à cette espèce de retour à un ordre moral des frères Kaczynski. On a vu que sur l'avortement en particulier, la diète polonaise a été obligée de reculer grâce à la pression de la foule. Quand vous entendez aussi bien le Premier ministre français que le président de la Commission insister sur la règle de droit au sein de l'Union européenne, faire une allusion de la part de Jean-Claude Juncker, une allusion à peine voilée au référendum qui vient d'avoir lieu en Hongrie, est-ce que vous pensez que c'est un langage qui peut, dans cette partie orientale de l'Europe, résonner auprès de l'opinion publique?
Moi, je pense que si nous avions parlé en l'année 2014-2015, peut-être personne ne suggérait que Pologne, c'est le parti de l'Est. Pologne, à l'époque, c'était le pays occidental, pays engagé aux affaires de l'Europe, un pays qui s'est soigné pour le bien de l'Europe, qui a pris la partie active dans cette discussion. Et maintenant, mon pays, je le remarque avec la tristesse profonde, se retirait sur la position orientale, sans direction, sans le sens dans les politiques étrangères, un pays qui est vraiment de plus en plus ressemble des autres pays de l'Est. Pas démocratique, où la discussion au sein de l'État est disturbé, perturbé, et où les gouvernements ne veulent pas entendre ce que le peuple veut lui dire. Et c'est l'événement que vous avez remarqué de lundi, c'est la marche noire des femmes, a vraiment un effet effrayant dans le gouvernement ou dans la société. Nous avons senti notre force, que la majorité parlementaire n'est pas capable à nous forcer d'accepter le nouvel ordre qu'il veut établir en Pologne. Alors la société ouverte vive.
En même temps, ce gouvernement, il faut quand même le souligner, a été évidemment démocratiquement élu. Et dans l'opinion publique, on a vu en Pologne le clivage entre les campagnes très conservatrices qui ont moins profité relativement des subventions européennes et les villes et le secteur industriel de l'économie. Jusqu'à quel point est-ce que l'opinion publique en Pologne reste attachée à cette fierté européenne qui était palpable à Varsovie il y a quelque temps?
Je voudrais dire que l'Europe, les fruits de l'Europe sont aussi palpables dans les campagnes polonaises.
C'est vrai.
Parce que les agriculteurs ont reçu un énorme nombre d'argent grâce à la politique agriculturelle européenne. Et le progrès est visible là. Si on va à la Pologne orientale, alors Pologne est mal développée. On voit de petits endroits bien modernisés. avec des voitures modernes. La consommation là, la consommation de fonds européens dure et donne des résultats magnifiques. Mais je suis sûr que si on oserait poser question aux Polonais, voulez-vous faire la même chose que les Britanniques? Et c'est la pensée présente dans la propagande du gouvernement. Alors, on joue pas ouvertement avec ça, mais c'est toujours présent. C'est cette pensée que l'Union, c'est pas le construit bien, il faut le changer, il faut relancer la révolution, contre-révolution culturelle. Et c'était les propos de Kaczynski et de Orban. Et si on osera poser ouvertement ces questions, quittons ou non, au restant, je suis sûr que la majorité des Polonais dirait non. Nous restons parce que l'Europe, l'Ouest, l'Union européenne, c'est notre destin.
Pascal Lamy, il y a toujours l'ombre du Brexit et l'ambiguïté finalement des propos de Madame May, le Premier ministre britannique, qui certes lors du congrès du Parti conservateur a affirmé haut et fort que la Grande-Bretagne, libérée enfin à l'entendre des entraves, se précipiterait vers les océans pour reconstituer un empire commercial qui lui serait encore plus profitable que le marché intérieur. Mais est-ce qu'il y a, à votre avis, un risque de contamination Brexit auprès des opinions publiques, y compris en France, d'y voir un argument en disant, mais finalement, si on se fâche, eh bien, on peut négocier une meilleure Europe?
Non, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas ce que disent les sondages. Et il y a eu de nombreuses mesures de l'opinion publique des 27, donc l'Europe continentale, depuis le référendum britannique du 23 juin dernier. Et toutes ces mesures disent deux choses. Un, il n'y a pas de demande majoritaire pour des référendums sur... Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on sort? Et deuxièmement, s'il y avait un référendum, dans aucun des pays de l'Union, les sondages ne disent que le résultat serait pour la sortie. Le pays le plus près d'un certain équilibre, ce sont les Pays-Bas. En gros, c'est du 55-45. Ensuite viennent la France.
Pays-Bas, où il y aura aussi des élections générales
l'année
prochaine.
Ensuite vient la France, pas très loin derrière. Et parmi les pays qui n'envisagent pas une seconde de répondre dans le sens négatif, ça vient d'être dit, il y a la Pologne, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Bon. Donc, je ne vois pas que le référendum britannique et cette ce processus de Brexit, de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, déclenche actuellement, en tout cas, cette espèce de détricotage, contrairement d'ailleurs à ce que pensent beaucoup de gens dans le monde. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens à l'extérieur de l'Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Chine, en Inde, depuis ce moment-là. Et eux ont reçu un signal qui est « c'est le début de la fin ». Donc là, il y a un contraste entre le langage corporel de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur et l'intérieur. Par contre, l'effet que ça va avoir, et on vient de le voir, c'est que les Européens vont être assez durs dans cette négociation avec la Grande-Bretagne, pas pour punir la Grande-Bretagne, mais pour ne pas être punis par leurs propres opinions publiques.
On a même vu donc le Premier ministre slovaque, c'est la Slovaquie qui en ce moment exerce la présidence tournante de l'Union, un Slovaque qui est franchement plutôt populiste qu'autre chose, et néanmoins, Monsieur Fico dit, il faut être ferme parce qu'encore une fois, comme vous venez de le dire, Pascal Lamy, il faut démontrer que personne n'a gagné à sortir de l'Union.
Et ça, Christine Lecrène, c'est le résultat de la poussée populiste. Il y a une poussée populiste en Europe pour ce moment, qui effectivement entonne les airs du souverainisme, du nationalisme, d'une certaine forme de xénophobie, et cette poussée populiste conduit, par exemple, M. Hollande, par exemple, Mme Merkel, par exemple, M. Fico, à résister en disant « on est dedans, on est dehors, si on est dehors, il faut payer les inconvénients d'être dehors, c'est-à-dire l'inverse des avantages d'être dedans. Ça correspond d'ailleurs probablement aussi à ce que souhaite la première ministre britannique, puisque, au fond, ce que nous savons, après 100 jours de flou, qu'il fallait d'ailleurs comprendre, parce que le résultat était tellement surprenant pour tout le monde, que le temps que les gens reprennent leurs esprits, que la fumée de l'explosion se dissipe, on commence à voir clair. Nous savons maintenant que le choix des Britanniques et des Européens, c'est ce qu'on appelle un Brexit dur. Hein, c'est la formule dans laquelle on songeait, dans laquelle bon, finalement on pourrait peut-être s'arranger, un pied dedans, un pied dehors, plutôt un pied dedans, un pied dehors. Bon, on va pas vers ça. Alors, est-ce que du côté britannique, est-ce que c'est un choix stratégique que d'accepter tous les inconvénients de la sortie, y compris au plan économique, pour faire valoir les bénéfices de la souveraineté, d'être en contrôle de ses propres affaires? Est-ce que c'est un choix plus tactique qui consiste à prendre l'option la plus dure pour qu'à la fin du fin, l'addition soit bien claire et qu'à ce moment-là, on puisse éventuellement reconsidérer ce choix? Je ne sais pas, mais depuis une semaine, nous savons qu'on va vers quelque chose de difficile.
Et avec, finalement, plus de précision dans l'attitude des 27, qui semble, encore une fois, véritablement campé sur un consensus sur sur cette question de l'attitude à avoir vis-à-vis des Britanniques, alors que côté britannique, on ne sait toujours pas, entre les trois ministres qui se partagent cette tâche compliquée d'entamer les négociations, finalement, il y a encore des scénarios, semble-t-il, assez différents.
Enfin, moi, je pense que...
Enfin, des variantes.
On y voit beaucoup plus clair depuis le congrès du Parti conservateur, où Mme May a dû faire preuve d'autorité, elle a fait preuve d'autorité en disant « on prend... » la version dure. Mmh. Et les Européens, qui savent très bien que les Britanniques sont d'excellents diplomates, et vont essayer de saucissonner les États membres de l'Union et les sujets, de curiasser, comme on dit, et c'est une grande tactique diplomatique que de découper les États en tranches, les Européens savent très bien que s'ils partent dans cette négociation en ordre dispersé, ils vont se faire avoir. Bon. Et d'ailleurs, c'est très clair aussi, dans ce qu'ont dit le Premier ministre et Jean-Claude Juncker, c'était d'ailleurs aussi clair dans ce qu'a dit le Président de la République au dîner d'anniversaire de l'Institut Jacques Delors hier soir.
Par rapport au Brexit, mais surtout par rapport toujours à cette question d'identité qui a dominé le débat entre Jean-Claude Juncker et Manuel Valls hier matin, le Premier ministre français a expliqué à quel point, selon lui, il est important que l'Europe insiste désormais sur ses propres frontières.
Soyons clairs, revendiquer une identité européenne, c'est assumer l'existence de frontières extérieures. Bien souvent, le mot a été tabou. C'est dire que l'Europe commence et s'arrête quelque part. Non pas pour exclure, rejeter, mais pour délimiter et définir cet espace, cette identité, cette civilisation, cet espace économique, mais aussi cet espace culturel. Sans dehors, on cherche en vain un dedans. Et je le dis, l'Union n'a pas vocation à s'élargir indéfiniment. D'autres États, notamment dans les Balkans, pourront bien sûr la rejoindre le moment venu. Mais il faudra aussi savoir dire non, et telle est ma conviction. La question de la Turquie est bien sûr dans tous les esprits. C'est un sujet délicat, complexe, je l'admets, que l'on ne peut pas régler en instant, surtout sur des tréteaux de campagnes électorales. Il faudra pourtant sortir, un moment ou l'autre, d'une forme d'hypocrisie. La Turquie est un grand partenaire essentiel pour notre sécurité collective. Nous le voyons avec la crise des réfugiés. Le pays est membre de l'OTAN. Mais il faudra aller au fond de ce débat, pas parce que c'est un pays musulman. L'islam, un islam moderne, débarrassé du poison salafiste, a toute sa place en Europe, hier, aujourd'hui, demain. L'islam est même une part de nous-mêmes, de notre identité européenne, de notre histoire, de nos racines, comme les autres monothéismes. mais parce qu'il s'agit de savoir où commence et où finit l'Europe, il faut être clair. Et parce qu'il s'agit de savoir quel destin géographique et politique les pays sont prêts à partager.
Marco Zatterin, l'Italie, de tous les pays membres de l'Union, avec la Grèce, il faut bien le dire, l'Italie subit de plein fouet l'épreuve humaine d'abord, l'épreuve morale, aussi l'épreuve économique, de voir affluer sur ses rives, traversant le canal de Sicile, des milliers de réfugiés. Au début de cette semaine, il y a eu 10 000 personnes qui ont été sauvées par les gardes-côtes italiens. Il faut d'ailleurs souligner que souvent, la population fait preuve d'une grande humanité et d'un sens tout à fait remarquable de l'accueil. En même temps, on voit que le Premier ministre français défend cette idée, encore une fois, que l'Europe doit avoir des frontières, que l'Europe n'est pas un espace ouvert à tous les vents et, sous-entendu, à toutes les migrations. Est-ce que l'opinion publique en Italie est sensible à ce genre d'argument ?
Je crois que l'Italie et la Grèce sont des victimes de la géographie et contre la géographie, il y a très peu qu'on peut faire. Les citoyennes, les familles, les nouveaux-nés qui sont en train d'arriver en Italie sont en fuite. Et il arrive de situations terribles, de guerre, de situations horribles. L'Italie a démontré une très grande solidarité. Ils ont très bien travaillé. Ils ont sauvé une énorme quantité de vies. Mais en même temps, l'opinion publique a la sensation que l'Europe n'a pas fait beaucoup pour l'aider. Et ça, il y a une erreur classique, parce qu'ils font confusion entre l'Europe des institutions et l'Europe des États membres. Il faut dire que la commission Juncker a essayé de beaucoup faire pour résoudre la situation, les drames des réfugiés et des migrants. Mais il faut aussi dire que les États membres ont fait trop peu pour résoudre la situation.
Et alors, évidemment, hier matin, Manuel Valls, le Premier ministre français, a défendu la position de la France.
Je trouve drôle d'entendre le Premier ministre d'un grand pays comme la France, un pays que j'aime beaucoup, dire « chacun a ses responsabilités ». Nous avons envoyé des soldats à Mali. Il a même cité la Libye, que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait, parce que la Libye, c'est un désordre total. Et alors, nous avons envoyé les soldats, vous sauvez les vies. C'est ça les meilleurs chantages qu'ils proposent. Ça, ce n'est pas la solidarité européenne. Ça, ce n'est pas l'esprit basé sur les valeurs que lui-même a soulignées dans son discours. C'est un problème global, ça nous regarde tous. On ne veut pas arrêter l'arrivée des migrants avec des murs ou avec des frontières à l'intérieur. Il faut des solutions communes. Il faut bien sûr avoir beaucoup plus de contrôle à la frontière extérieure de l'Union européenne. Mais en même temps, il faut investir et beaucoup pour éviter, pour couper les racines de l'immigration à l'origine. Parce que ce n'est pas avec le mur, ce n'est pas avec la fermeture de Schengen, ce n'est pas avec les barrières en Hongrie qu'on va résoudre les problèmes. Ils vont quand même arriver jusqu'il y aura la mort en Afrique ou au Moyen-Orient ou n'importe où.
Thomas Ranke, on se souvient que Manuel Valls avait beaucoup choqué en Allemagne à la conférence de Munich il y a un peu plus d'un an, quand il avait mis directement en cause, à l'époque, l'ouverture dont avait fait preuve la chancelière vis-à-vis des vagues migratoires. Est-ce que, on a évidemment tous observé le résultat des élections partielles dans certains Länder. On a vu que Madame Merkel a même été huée lors de l'anniversaire de la réunification à Dresde. Est-ce que, entre l'Allemagne et la France, sur cette question très sensible des réfugiés, est-ce qu'il y a maintenant, de fait, une harmonisation plus évidente des politiques ?
Il y a davantage d'harmonisation parce qu'on a coopéré à l'établissement de l'accord avec la Turquie. Là encore, il y avait des critiques côté français parce qu'on pensait que Merkel jouait trop cavalier seul. Mais disons, au bout du compte, on est complètement d'accord. On essaie de bien appliquer cet accord. Donc, on a fait des progrès. Il reste quand même des traces parce que l'Allemagne pense toujours que la France l'a laissé seul, qu'il y avait un manque de solidarité. Et que ce fait que Manuel Valls a critiqué en public la chancelière, que c'était quelque chose qui se fait pas. Que les Allemands sont souvent, les ministres allemands sont souvent tentés de critiquer la France en public. On essaie
d'être poli.
Le maximum d'être poli, de ne pas le faire, de critiquer tout derrière les portes, mais de pas présenter ses critiques au grand jour. Là, le fait que Manuel Valls a répété dans son discours hier, d'une certaine manière, oui, je l'ai dit, et bon, pour moi, il était sous-entendu, je n'avais pas complètement tort. ça m'a étonné un peu.
Oui, à deux reprises, en plus.
À deux reprises, effectivement.
Que ça le travaille, quand même.
Pascal Lamy.
Ça prouve que ça le travaille. Ça prouve qu'il a compris que ce jour-là, il avait peut-être été un petit peu loin, non ?
Peut-être, ou peut-être aussi il veut montrer que qu'il y a des gens qui sont là pour la synthèse, il y a d'autres qui sont là pour raviver un peu la tension, que lui, il est plutôt celui qui veut pas cacher les conflits quand ils sont là.
Venons-en maintenant à l'Europe de la défense. On voit que dans la multiplicité des crises qui accablent l'Union européenne, le président de la Commission a proposé au dernier sommet à Bratislava, c'était le premier sommet à 27, donc sans les Britanniques, il a donc lancé, ou plutôt relancé, cette idée d'une défense européenne, d'un embryon de défense européenne commune. Écoutons la façon dont Jean-Claude Juncker en a reparlé donc hier matin à l'occasion du 20e anniversaire de l'Institut Jacques Delors.
Je crois que pendant les 12 mois à venir, nous devons prendre un certain nombre de décisions très importantes. C'est le dernier moment où on peut vraiment faire en sorte que l'Europe redémarre. Je le dis, nous devons faire l'Europe de la défense. On ne peut pas laisser, je le dis ici et je le dis dans toutes les villes européennes, on ne peut pas laisser à la seule France le devoir de sauver l'honneur de l'Europe. Si la France n'avait pas été présente au Mali et ailleurs, l'Europe n'aurait pas existé. Et si l'Europe a existé, ce ne fut que grâce à la France. Et donc, il faut rendre plus collectif cet effort de défense de l'Europe, raison pour laquelle j'ai proposé la mise en place de quartiers généraux à Bruxelles comme premier pas. Nous parlons là d'économie réelle. Les marchés publics en matière de défense ont un coût en termes de pertes pour les trésors nationaux, jusqu'à 100 milliards. Nous dépensons 100 milliards de trop parce que nous n'arrivons pas à conjuguer nos efforts en matière de fourniture du matériel militaire. Donc il y a de l'argent à gagner. Il y a une dose d'efficacité supplémentaire à donner aux efforts de défense de l'Union européenne et donc il faudra le faire.
Pascal Lamy, cette idée d'une défense européenne, soutenue aussi hier par Manuel Valls, qui a insisté sur le fait que désormais les menaces étaient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos pays, avec évidemment l'effet ricochet du terrorisme. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement une réponse à laquelle une réponse aux inquiétudes des opinions publiques en Europe ? Ou c'est une idée, finalement, de politiques qui sont très éloignées du terrain ?
Non, je pense pour la première hypothèse. Ce que les opinions publiques en Europe reprochent à l'Union européenne depuis un certain temps, c'est une croissance trop molle et une sécurité douteuse. C'est en gros ça que disent les opinions quand on regarde de près. Il y a deux raisons de relancer ce sujet défense. Intégration en matière de défense et de sécurité, y compris militaire, de l'Europe. La première, c'est que les Américains regardent moins dans la direction de l'Europe et plus dans la direction de l'Asie. Et donc il faut s'attendre à un désengagement américain sur le plan de la sécurité.
Quel que soit le prochain président
quel
américain.
Quel que soit le prochain président. Dans le meilleur des cas, ils se désengageront en nous laissant les moyens de nous engager. Dans le pire des cas, ils se désengageront en nous empêchant de nous engager. La deuxième raison, c'est que la sortie de la Grande-Bretagne, si elle se confirme, va lever un des verrous qui existait à l'intégration en matière de sécurité, qui est la préférence de la Grande-Bretagne de toujours pour une intégration au sein de l'OTAN et pas au sein de l'Union européenne.
Donc. Oui, on a déjà d'ailleurs entendu le ministre britannique de la Défense dire qu'il n'était pas question que l'Union européenne avance en matière de défense, comme si les Britanniques s'estimaient encore les arbitres des élégances au sein d'une Union qu'ils sont en train de quitter.
Donc, s'ils quittent l'Union, ce verrou disparaît. Alors, après, reste à savoir quel est ce chemin et à quel horizon. Bon, c'est inévitablement un chemin extrêmement long, tout simplement parce que la défense, c'est l'outil d'une politique. Un système de défense, des armes, des troupes qu'on projette, qu'on emploie, c'est l'outil d'une politique étrangère et de sécurité. Donc l'idée qu'il y aura une défense européenne sans avoir une politique étrangère et de sécurité, ça fait zéro sens. N'importe quel militaire vous dira qu'il est là pour obéir à des instructions politiques qui lui disent dans quelles circonstances et où il doit opérer en tant qu'instrument. Et donc, une défense européenne, une armée européenne, est inévitablement asservie, au sens électronique du terme, moderne, à une politique étrangère et de sécurité. Et ça, ça va prendre du temps parce que faire une monnaie unique, faire un grand marché, faire des infrastructures communes, faire l'Europe digitale, c'est en gros 2 plus 2, ça fait 4 partout. C'est la raison qui pousse à ça. En matière de politique étrangère et de sécurité, on n'est pas dans la raison. On est dans la passion. On est dans une politique étrangère et de sécurité commune, ça consiste à partager des cauchemars. Avoir les mêmes cauchemars, ben, je peux vous dire, avoir les mêmes cauchemars, ça prend du temps. Et c'est une entreprise, si je puis dire, très compliquée sur le plan anthropologique. Alors, M. Poutine peut-être nous aider à cette catalyse un peu compliquée, s'il continue.
Daesh aussi.
Absolument. Mais ça prendra du temps. Je crois que c'est une frontière désormais incontournable. Parce que le monde a changé et que l'Europe devra se donner les moyens de sa défense. Et comme l'a dit Manuel Valls hier, les moyens de sa défense, c'est 2% du budget public. La France est à 1,8.
Un effort à faire. Marco Zatterin de la Stampa. On se souvient que votre Premier ministre, Renzi, a claqué la porte à Bratislava en disant « ces histoires de défense, c'est du pipeau ». Encore une fois, l'Europe prouve qu'elle est sans âme et sans horizon, puisqu'elle ne se préoccupe pas des vraies priorités de nos populations. Est-ce que la réponse, aussi bien de la Commission européenne que de quelques gouvernements, qu'ils soient français ou allemands, par exemple, vous semble approprié? En Italie, aujourd'hui, qu'attendent les Italiens de l'Union européenne? Est-ce qu'ils attendent une défense commune contre le terrorisme ou est-ce qu'ils attendent d'abord encore plus d'indulgence par rapport à la politique économique, au déficit, etc.
Je déteste être du même avis de M. Renzi. mais je crois qu'il a raison. Parce que si vous demandez aux Italiens qu'est-ce qu'ils veulent maintenant, ils veulent la croissance, l'emploi. Les jeunes Italiens sont pour les 40% sans job. Ils veulent travailler, ils veulent avoir de la confiance. Ils veulent avoir l'espoir dans le futur. Alors, la défense, c'est un thème très important. Il faut travailler sur ça aussi, bien sûr. Le terrorisme est une menace très dure, très difficile, mais c'est suffisant de commencer à se parler, à coordonner les services, à coordonner les renseignements, à coordonner la police. Il ne faut pas une défense commune. Bien sûr, on peut parler de ça, mais si on veut battre les populistes, les messieurs Grillo et les messieurs...
Donc, monsieur Grillo, il faut le rappeler, est donc le dirigeant du mouvement 5 étoiles, qui donne quelques interviews. Il a été d'une grande sincérité, d'ailleurs, parce qu'il a dit « Moi, je suis un comique, alors j'ai une idée le matin, mais je peux en changer et avoir une autre idée l'après-midi. »
Voilà, c'est la même chose de Madame Le Pen, parfois. Mais parce que...
Pas seulement.
Voilà. Mais le problème est qu'il faut donner des réponses tout de suite. En programmant le futur, en écrivant l'architecture du futur, mais si on ne donne pas de réponse tout de suite, on va détruire l'Europe, parce que c'est que mes amis à Turin, à Rome, qui n'ont pas de boulot maintenant, veulent, c'est l'espoir d'un boulot. Ils ne veulent pas l'espoir d'avoir des armées communes avec les Français et les Allemands, qui peut-être est utile, peut-être nécessaire, mais ce n'est pas ça. Et alors, ce n'est pas l'Italie qui fait une bataille pour la solidarité, parce qu'il faut souvenir une chose, ça fait au moins 6 ans que le déficit en Italie est en ordre et respecte les paramètres européens. Et ce n'est pas la même chose en France, pour citer un exemple. Et alors, si Renzi dit, ça fait 5 ans que l'Italie est au-dessus de 3% de GNP, de PIL, de produits de PIB.
Oui.
Voilà. La France, ça fait 5 ans, 6 ans qui a des marges pour investir qui sont beaucoup plus hautes par rapport à l'Italie parce qu'ils ne respectent pas les règles. C'est ça qui est fâchant pour les Italiens. Nous respectons les règles et on n'a pas de marges. Les Français, ils ne respectent pas les règles, ils ont des marges et en plus, ils protestent.
Et les Français protestent évidemment en disant c'est la faute des Allemands, parce que ce sont les Allemands qui imposent des règles, qui imposent la rigueur, l'austérité, enfin tous ces mots valises dans lesquels on met, avec une certaine approximation d'ailleurs, des politiques assez différentes. Thomas Hanke, en Allemagne, l'opinion publique ne met pas en cause l'Union européenne en tant que telle. Mais est-ce que les réponses la Commission propose en disant il faut doubler le plan d'investissement dans les infrastructures, le numérique, on l'a entendu dans la bouche de Jean-Claude Juncker hier matin. Oui, le numérique, oui, la croissance, oui, plus d'investissement, mais ça reste quand même... assez éloigné, me semble-t-il, par rapport aux préoccupations des gens, ou abstrait.
Ça dépend. Je crois que le public allemand a compris que le défi du numérique, on peut le relever que quand on coopère. Ça passe pas forcément par des investissements de l'Union européenne. Je crois que ça passe beaucoup plus par la création d'un vrai grand marché, un marché qui serait comparable au grand marché américain. C'est quand même complètement... ça n'a pas de sens que nos jeunes, nos start-up ont d'excellentes idées, mais pour les réaliser, après, elles doivent aller en Californie ou ailleurs aux États-Unis, parce qu'ils ont là le grand marché et chez nous, ils ne peuvent pas se développer. Donc là, on a compris, on voit que c'est une priorité, c'est une bonne chose, que ça devient une priorité de l'Union européenne. encore faut-il trouver les bons moyens pour mettre ça en œuvre. Je voudrais quand même revenir une seconde à la question de la défense, parce que là aussi, oui. C'est quelque chose de, où les Allemands disent oui, c'est une priorité, on trouve qu'il faut développer une défense commune. Et je crois que c'est pas, il faut pas forcément dire non, il faut d'abord s'occuper de l'emploi et la défense, ça vient après. Non, une chose n'exclut pas l'autre. Il faut relever plusieurs défis au même moment. Seulement, le problème, c'est que, comme Pascal l'a dit, faut avoir des cauchemars communs. Et on n'a pas forcément les mêmes ennemis dans la tête. Pour nous, Allemands, c'est toujours surtout les Russes, et de plus en plus les terroristes aussi. Mais on n'a pas forcément la même réaction. On ne pense pas qu'on peut résoudre le problème du terrorisme avec une guerre contre le terrorisme. Mm-hmm. On pense plutôt que ça relève du travail de la police, des services secrets. Parfois aussi, il faut s'occuper des banlieues d'où viennent les jeunes terroristes. Tandis que la France réagit avec cette attitude « on va en guerre ». Donc, et là, dans cette différence de réaction, on voit pourquoi ça prend tellement de temps pour développer vraiment une défense commune. Et je ne parle pas de toutes les questions industrielles qui sont aussi extrêmement difficiles. On a quand même fait des progrès. On a réalisé une fusion de nos deux entreprises qui construisent des chars. Tanks. Mmh. Donc, Nexter, KMW, ils ont fait une fusion. La France va même acheter un fusil allemand. Donc, c'est quelque chose qui aurait été impensable il y a 20 ans. Donc, il y a des progrès. Maintenant, côté allemand, il faut aussi peut-être reconnaître que la France a des capacités que nous, on n'a pas. La France a la compétence de construire un avion de combat.
On aime bien quand les Allemands disent ça.
Oui, il faut le reconnaître. Oui. Nous, on n'a plus la capacité de construire un avion de combat. Donc, quand on parle du développement d'un drone qui sera donc le successeur d'un avion de combat moderne, c'est peut-être plutôt à la France d'être dans le driver seat qu'à l'Allemagne. Il faut reconnaître là que quand on est celui qui est le plus compétent devrait avoir le leadership. Et les Allemands ont parfois du mal à l'accepter, les Français aussi, donc apprenons.
Et on voit à quel point, encore une fois, on en revient à cette idée du couple franco-allemand, même si l'expression a été moins utilisée, me semble-t-il, ces derniers temps, en tout cas en France. Le moment est venu, malgré tout, de nous souvenir, Pascal Lamy, de l'occasion qui a suscité ce débat très intéressant entre le Premier ministre français Manuel Valls, dont il faut rappeler qu'il ne s'était pratiquement jamais exprimé sur l'Europe, donc ce débat entre lui et le président de la Commission. Et cette occasion, c'est en fait la célébration de l'héritage de Jacques Delors, un héritage qui évidemment est inscrit dans l'histoire, mais qui prouve aussi à quel point les priorités de l'époque, donc 85-95, vous y étiez intimement associé, vous étiez son directeur de cabinet, les priorités de l'époque étaient extraordinairement différentes des nôtres aujourd'hui.
Oui. D'ailleurs, si vous me permettez, Christine Ockrent, je parlerai plutôt d'inspiration que d'héritage. Dieu merci, Jacques Delors est encore avec nous. Et donc, on parle d'inspiration. On parlera bien peut-être sûr. Un jour d'héritage, mais pour l'instant, on parle d'inspiration. Non, c'est vrai que j'ai vécu cette période qui maintenant, dans la légende bruxelloise, ressemble à une sorte de paradis.
C'était mieux avant.
Voilà, c'est oui, ça. C'est ça. Ouais. Le temps de Delors, laudator temporis acti, comme disaient les Latins. Et j'ai quelques raisons de me souvenir que ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Il se trouve simplement que les circonstances étaient différentes, l'Europe était plus petite, c'en était encore du temps de la guerre froide, le mur de Berlin n'était pas tombé. Les dirigeants européens, comme Mitterrand, Kohl, Andreotti, González, étaient des gens... Et Madame Thatcher, avec laquelle Delors avait des rapports... professionnel de bonne qualité, contrairement à ce qu'on dit ici ou là, cette génération-là était une génération pro-européenne parce qu'ils étaient tombés dans l'Europe quand ils étaient petits, parce que l'Europe, c'était la guerre. Bon. Et donc, il y avait beaucoup plus de leadership, c'était beaucoup moins compliqué. Le monde de l'époque était beaucoup moins compliqué qu'il ne l'est maintenant. Bon, reste le coefficient de l'or, j'ai toujours dit et écrit, même si ça ne s'est absolument pas passé comme ça, que si en juin 84 au Conseil européen de Fontainebleau, quand il a été décidé que ce serait un Français qui serait président de la Commission européenne, parce qu'à l'époque c'était le Conseil européen qui décidait qui allait être chef de la Commission, c'était pas le Parlement comme maintenant, ce qui prouve d'ailleurs que ça change. J'ai toujours pensé qu'à l'époque, si le Conseil européen avait recruté le meilleur chasseur de tête du monde, il serait allé chercher de l'or, qui était une espèce d'animal très étrange, d'ailleurs, y compris dans son propre
pays.
Et
il le demeure.
Absolument. très très nordique pour un Français, très très syndicaliste pour un politique. Donc c'était une espèce d'hybride assez étrange, et c'est probablement ce qui a fait le succès de Delors à la présidente de la Commission, parce que c'était une personnalité très multiple, et comme le dit d'ailleurs le nouveau président de l'Institut Jacques Delors, Enrico Letta, qui fut Premier ministre italien, Delors c'est à la fois une vision et un tournevis. Et à la tête de la Commission, c'est effectivement ça qu'il faut avoir.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous avez évidemment cherché dans la presse internationale la trace de Jacques Delors et la manière dont il était vu à l'époque et dont il est vu aujourd'hui encore.
Oui, alors il y a un an, en fait, la prestigieuse New York Review of Books publiait un entretien posthume avec Stanley Hoffman, politologue français, fondateur du Centre d'études européennes à l'Université d'Harvard. Cette interview date de 2011, il n'avait jamais été publié jusque-là, et lorsque la New York Review of Books interroge Stanley Hoffman sur les grandes personnalités politiques de notre temps, capables de concilier à la fois la morale et ce qu'on appelle la réelle politique, eh bien il cite un nom, celui de Jacques Delors, un homme, explique Stanley Hoffman, qui n'a pas voulu construire l'Europe seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des motivations humaines. Il fallait rendre la guerre impossible pour ces pays au cours des prochains siècles. Alors Stanley Hoffman n'est bien sûr pas le seul à saluer cette trace de Jacques Delors. Le journaliste Lionel Barber, à la tête maintenant depuis plus de 10 ans du Financial Times, écrivait en septembre 1996 « On se souviendra longtemps de Jacques Delors comme le Monsieur Europe. Sa contribution à la cause de l'Europe équivaut à celle des Jean Monnet et Robert Schuman, les pères fondateurs de la communauté européenne. »
Mais ça, ce sont les éloges d'hier et d'aujourd'hui, mais il y a eu aussi un flot, une inondation de critiques à son encontre.
C'est vrai, l'ancien président de la Commission européenne ne s'était pas fait que des amis quand il était à Bruxelles. Le magazine The New Statesman, le magazine britannique, rappelait récemment la détestation que lui vouait Margaret Thatcher au passage.
Enfin, une détestation mêlée d'admiration, hein, parce que je me souviens de l'avoir interrogée, elle, au sujet de Jacques Delors.
Au passage, d'ailleurs, la revue évoquait cette campagne de dénigrement lancée par la presse britannique à l'époque, et notamment cette une du Sun, le quotidien de Sun, c'était en 1990, avec ce titre « Trash », Up yours, the laws,
oui,
un titre
pas,
que la bienséance
oui.
M'empêche de vous traduire. Ces critiques se sont en tout cas atténuées, mais elles n'ont jamais cessé. La crise actuelle de l'Europe les a même réveillées. Récemment, le chroniqueur du Financial Times, Gideon Rachman, posait la question « À qui la faute ?» Et selon lui, ce qu'on appelle les grands Européens seraient les premiers responsables de la crise. C'est vrai, dit-il, Helmut Kohl ou Jacques Delors étaient de véritables grands Européens. Le premier a conduit la réunification de l'Allemagne, le deuxième a bâti le marché unique. Mais quand on en vient à l'euro, écrit Gideon Rachman, ils ont ignoré les objections de ceux qui se demandaient comment pouvait fonctionner une monnaie unique avec autant d'économies différentes. Et le chroniqueur du Financial Times conclut « Aujourd'hui, l'Europe doit supporter les conséquences de leur orgueil ». L'accusation est lourde, mais elle aboutit à un constat assez partagé. L'Europe doit changer. Il n'est toutefois pas évident d'écrire un nouveau récit européen, remarque le sociologue britannique Frank Furedi dans le magazine Spiked. Et il rappelle cette célèbre citation, personne ne tombe amoureux d'un taux de croissance, une citation signée Jacques Delors, l'un des premiers à avoir compris les limites de l'Europe technocratique.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Nous arrivons à la conclusion de cette émission sur l'état de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut encore avoir un projet politique maintenant qu'elle comporte 27 membres et que ces fractures existent entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, entre le Nord et le Sud jusqu'à un certain point? D'un mot, si vous aviez les uns et les autres à désigner en quelque sorte la priorité, selon vous, par rapport à votre propre opinion publique. Je commence par l'Italie. Marco Zatterin, quelle devrait être cette priorité?
Il faut sortir de l'idée que nous sommes au début de la fin, et il faut raisonner sur le fait que nous sommes dans la fin du début. Il faut changer l'esprit et il faut commencer à donner des résultats. Ma priorité, et c'est pas seulement la mienne, c'est le travail et la croissance.
Bartosz Wieliński, vu de Varsovie.
Oui, moi je pense qu'il faut défendre l'Europe, l'idée européenne, parce que nous avons toléré comme les journalistes, comme les citoyens, la critique immense de l'Europe quand quelque chose qui n'est plus utile, qui est trop bureaucratique, trop grande, trop artificielle, éloignée de la population. Ce sont des mythes, ce sont des mensonges. Et c'est le devoir des journalistes, des membres de sociétés ouvertes, de se faire entendre. Parce que l'Union européenne, ce n'est pas seulement la croissance, l'économie, c'est aussi la protection de valeurs, protection de démocratie, de l'état de droit. Et maintenant, en Pologne, nous sentons qu'est-ce que c'est de vivre dans l'état où l'état de droit est en danger. Et support de l'Europe est très important pour nous, et c'est pour cela que l'Europe entière doit se défendre aussi.
Thomas Hanke, vu d'Allemagne.
On a les bonnes priorités, croissance, emploi, défense, réfugiés, innovation. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut vraiment commencer à travailler et travailler un peu plus vite que dans le passé. On ne peut plus se permettre de passer des années sur des discussions qui sont malheureusement souvent freinées par les gouvernements nationaux, pas par la technocratie de Bruxelles.
Pascal Lamy, 2017, une année électorale dans deux pays clés, l'Allemagne, la France. Quelle priorité selon vous?
Si possible à cette occasion, refaire du débat européen un débat important dans ces moments de la vie démocratique, tout en sachant très bien que ni Mme Merkel, ni M. Hollande, ni aucun d'ailleurs des autres concurrents probables en France, n'ont envie de parler d'Europe. Et donc il faut que les uns et les autres, nous travaillons pour les obliger à le faire. Et à plus long terme, je dirais, refaire de l'Europe la version la plus civilisée de la mondialité.
Merci, merci à tous. C'était en tout cas l'objectif de cette émission. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci à Pascal Lamy, président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Merci à vous, Thomas Hanke, correspondant du quotidien allemand Handelsblatt. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza de Varsovie. Marco Zatterin, de la Stampa de Turin. Merci évidemment à Eric Scholl et à Niccolò Conti de Notre Europe et aussi au Conservatoire National des Arts et Métiers qui exceptionnellement nous a accueillis. Je remercie à l'occasion Guillaume Rallian et Jean-Marc Clauss de Radio France. À la réalisation, comme d'habitude, Luc-Jean Reynaud, à la technique Arthur Gerbeau et Yves Lehors, Meryl Monegatti a préparé cette émission et va évidemment sur notre site vous donner comme d'habitude toute la bibliographie nécessaire. Dans quelques instants, comme chaque samedi, voici Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end, à samedi prochain.